Europe 1, le 22-22-30. Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On va essayer de le décaler, promis. Tu vas voir. Parce que 19h c'est tôt, je suis d'accord. 19h c'est très tôt.
19h, c'est très tôt. Emmanuel Macron envisage de décaler le couvre-feu en vue de la réouverture progressive du pays. Le chef de l'État a esquissé les premières lignes de son calendrier de déconfinement. 4 étapes entre début mai et fin juin. Les Italiens, eux, y sont déjà. Les terrasses des bars et des restaurants accueillent à nouveau des clients, tout comme les cinémas, théâtres et salles de concert. Nous irons à Rome, où la vie a subitement repris. Le retour en classe aujourd'hui des élèves de primaire et de maternelle pour le plus grand soulagement de leurs parents, épuisés après 3 semaines passées à jongler entre télétravail et école à la maison. Dans ce journal également, l'hommage poignant de la ville de Rambouillet à la fonctionnaire de police assassinée vendredi par un terroriste. L'affaire Sarah Halimi, un rapport parlementaire défend la loi actuelle sur l'irresponsabilité pénale. Et puis cette information Europe 1, la SNCF va considérablement renforcer son offre de train début mai pour la levée des restrictions de circulation. La météo, elle sera toujours très ensoleillée demain sur la moitié nord du pays, plus nuageuse dans le sud, voire pluvieuse sur les Pyrénées et dans le sud-est, nous dira Laurent Cabrol. La Bourse de Paris, elle a débuté la semaine en hausse, plus 0,28% à 6275 points. Il y a tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. La France a dévoilé aujourd'hui son pavillon pour l'exposition universelle de Dubaï qui débutera en octobre prochain. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Éric Linquier, le commissaire de la France pour cette exposition où il sera beaucoup question de développement durable. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était donc aujourd'hui l'acte 1 du déconfinement, la rentrée des classes en maternelle et primaire, rentrée particulière pour les enfants d'une école élémentaire de Melun en Seine-et-Marne qui ont vu débarquer un certain Emmanuel Macron. L'occasion d'un échange et d'une remarque adressée par une élève de CM2 qui a souligné le côté énervant du couvre-feu. Le chef de l'État lui a répondu qu'effectivement 19h c'est très tôt et que le gouvernement va essayer de le décaler un peu. Mais ce n'est pas tout, le président a aussi donné quelques pistes supplémentaires sur le calendrier qui nous attend pour les semaines à venir. Claudia Bertram.
Oui, 4 étapes de réouverture, c'est ce qu'a esquissé Emmanuel Macron, qui a également répondu aux questions des badauds à Melun. 4 étapes donc entre début mai et fin juin. On le savait, il y a le 3 mai avec la fin des restrictions de circulation, la mi-mai avec la réouverture des terrasses. La date sera affinée dans les prochains jours, a indiqué le chef de l'État. Ensuite, une troisième phase début juin et enfin mi ou fin juin. Les restaurants, eux, pourraient rouvrir progressivement en plusieurs étapes. Et selon la situation dans les départements, a laissé entendre le chef de l'État.
On va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence. Je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons fin mai ou courant juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir. On fera des étapes d'ouverture et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats.
Le président qui a précisé que certains lieux culturels pourraient rouvrir dès les premières phases avec des jauges réduites. Emmanuel Macron devrait s'exprimer prochainement pour préciser ces étapes de déconfinement. D'après nos informations, ça pourrait être avant le 5 mai.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Il va donc falloir attendre la mi-mai au moins avant de pouvoir s'attabler en terrasse. Eh bien la mi-mai, c'était aujourd'hui en Italie. Une grande partie du pays a entamé son déconfinement. Bars et restaurants ont pu ressortir leurs terrasses, services jusqu'à 22h, soit jusqu'au couvre-feu. Mais ce n'est pas tout. Les cinémas, théâtres et salles de concert peuvent à nouveau accueillir du public avec une jauge de 50%. Bref, un début de retour à une vie normale que les Italiens se sont empressés de savourer, comme l'a constaté à Rome notre correspondante Blandine Hugonnet.
Le centre de Rome a soudainement repris vie depuis ce matin. Les terrasses des cafés et les restaurants se remplissent. Derrière le comptoir de son café, Michele se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau ses habitués à table toute la journée après des semaines de fermeture.
On a réinstallé les tables et les chaises dehors et ça fait déjà bien revenir la clientèle. Il manque juste les touristes. On espère qu'ils vont revenir rapidement d'ici l'été.
Attablé au soleil avec 3 amis, Giuseppe a enlevé son masque pour racler la dernière bouchée de tiramisu après un plat de pâtes maison qu'il a particulièrement savouré. en ce premier jour de réouverture des terrasses.
C'est le goût de la liberté parce qu'on nous laisse enfin la possibilité de vivre en allant au restaurant, en se mangeant un bon plat de pâtes. Ça aide aussi l'activité à se relancer après une période aussi difficile que la pandémie.
Une liberté retrouvée à partir d'aujourd'hui à Rome et dans toutes les régions considérées à risque modéré grâce à une baisse continuelle, notamment des cas graves. Cinéma, théâtre, musée sont aussi autorisés à rouvrir dès aujourd'hui après 6 mois d'arrêt. Mais dans les rues animées de Rome, on le sait, cette fois-ci, cette grande phase de réouverture ne sera définitive qu'à condition que les Romains respectent rigoureusement les gestes barrières et le couvre-feu, maintenu au niveau national à 22h. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
Si en Italie l'épidémie est en net recul depuis fin mars, 13 000 nouveaux cas en moyenne ces derniers jours, c'est plus du double en France, où la situation reste inquiétante dans les hôpitaux, même si on note depuis quelques jours une légère amélioration dans les chiffres de l'épidémie, une décrue toutefois très lente, Victor Delande.
Oui, elle est même trop lente selon certains épidémiologistes. Il y a encore plus de 30 000 nouveaux cas chaque jour, plus de 6 000 patients dans les services de réanimation dans les hôpitaux et encore plus de 300 morts quotidiens. Alors oui, il y a du mieux, c'est vrai, mais cette décrue est très poussive, comme l'explique Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Université et cofondateur du réseau Obépine, un observatoire qui mesure le Covid dans les eaux usées. Il était l'invité de Patrick Cohen à midi et demi.
On a vu un changement dans la tendance à partir de la dernière semaine de mars. Malheureusement, cette tendance est à plat. On a du mal à descendre. À ça plat. Descend très doucement. Ouais. Ça dépend beaucoup des territoires. Des territoires qui avaient réussi un peu à donner de bonnes tendances, aujourd'hui remontent un petit peu, notamment dans les Hauts-de-France. Donc une période de vigilance.
Et depuis ce matin, plus de 6 millions d'enfants sont retournés en classe en maternelle et en primaire avec un protocole renforcé. Les épidémiologistes vont donc scruter les chiffres dans les prochains jours et les prochaines semaines pour voir si cette rentrée aura une incidence ou non sur l'épidémie. Dans le même temps, le gouvernement compte sur une accélération de la campagne de vaccination. Mais dans cette course contre la montre, l'épidémie a encore un temps d'avance puisqu'un Français sur 5 a reçu au moins une injection du vaccin. C'est bien, mais c'est encore trop peu pour espérer bloquer les contaminations.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Un virus toujours très actif donc. Et pourtant, Victor nous le disait à l'instant, l'exécutif a maintenu son calendrier scolaire. Rentrée pour les élèves de maternelle et de primaire après 3 semaines de coupure, avec la promesse d'un protocole sanitaire strict. Classe fermée au moindre cas de Covid et 400 000 tests salivaires réalisés cette semaine. Objectif tenir 10 semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire. Benjamin Péter, vous êtes à Toulouse pour Europe 1. Ce retour sur les bancs d'école, il était attendu avec impatience par les enfants et leurs parents.
Oui, notamment tous ces parents qui avaient dû s'organiser vraiment au dernier moment, juste après les annonces d'Emmanuel Macron. Dalil est content de ne plus avoir à recommencer l'école à la maison.
C'était un soulagement, on va dire, pour faire une école. Ouais. Parce que bon, les enfants à la maison, c'est pas évident. Ça chamboule tout, on va dire. Il n'y a plus de repères, on va dire. Et leur faire l'école à la maison, c'est pas évident non plus.
Les devoirs, ça a été compliqué pour beaucoup. Sandra a déposé ce matin un petit garçon angoissé de ne pas avoir pu tout finir.
Nous, on n'avait pas pu avoir de congé. On a en même temps gardé notre enfant et en même temps travaillé. Donc en fait, on n'a pas vraiment fait l'école à la maison. La maîtresse avait envoyé un mail très déculpabilisant pour les parents en disant que ça allait être revu en classe. Voilà, mais ça n'enlève pas l'angoisse en fait.
De son côté, Nathalie, qui est sage-femme, s'est organisée un peu comme elle a pu.
Ça a été, mais c'était un peu long là, j'avoue que les vacances un peu décalées et tout, ça a été une organisation à trouver, mais ça va. J'ai des collègues sympas qui ont changé leur garde avec moi.
Alors oui, ça s'est bien passé, mais Louise, sa fille, attendait cette reprise avec beaucoup d'impatience.
Ça me manquait un peu pendant les vacances, l'école. On a fait des travaux et on a corrigé un peu ce qu'on devait faire pendant les vacances. J'étais plutôt contente parce que y avait mes copines et tout.
Et maintenant, tous espèrent que ça va durer, qu'ils ne recevront pas dans les prochains jours un mail leur annonçant la fermeture d'une classe ou même de toute l'école.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Quant aux collégiens et lycéens, eux aussi ont repris les cours, mais en distanciel pendant encore une semaine. Et comme avant les vacances, certains ont eu bien du mal aujourd'hui à accéder à la plateforme en ligne du CNED. Ma classe à la maison. Le ministère de l'Éducation avait pourtant assuré que le système avait été renforcé pour éviter une surcharge des serveurs. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. L'Union européenne a lancé une action en justice contre AstraZeneca. Une plainte a été déposée devant les tribunaux en raison des retards de livraison. 30 millions de doses au premier trimestre au lieu des 120 millions attendus. Une action en justice qu'AstraZeneca juge sans fondement et contre laquelle le laboratoire suédo-britannique promet de se défendre fermement.
Écoutez le monde changer. Europe Soir.
le 22-22-30.
Beaucoup d'émotions et de larmes cet après-midi à Rambouillet, trois jours après l'attaque terroriste au commissariat qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police. Les habitants de la commune étaient appelés à se réunir à 17h30 devant l'hôtel de ville pour rendre un dernier hommage à Stéphanie, assassinée par un assaillant radicalisé. De nombreuses personnes étaient présentes, dont des collègues de la victime, Justin Morin.
Oui, effectivement. Beaucoup de policiers en civil, dont certains ont quand même tenu à porter le brassard orange fluo. Alors pour ce court hommage, des représentants de l'État étaient aussi présents. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Gérard Larcher, entre autres, alignés sur les marches de la mairie. Mais ceux qui ont attiré tous les regards, ce sont bien le mari et les deux filles de la policière assassinée, debout, face au public venu les soutenir. Dès les premiers mots d'hommage de la mère de Rambouillet, l'une des deux, la plus jeune, âgée de 13 ans, a fondu en larmes, la tête basse. Au premier rang, une amie de la famille a du mal, elle aussi, à contenir les siennes.
Ils sont dignes, hein. Ils sont dignes, ils sont courageux, ils sont forts. Ils sont forts, mais bon, pour le moment. Après, quand la pression va retomber, quand ils vont se retrouver seuls, parce qu'ils sont entourés pour le moment, mais ça ne va pas durer. Enfin, on va essayer d'être présent le plus possible pour eux.
Après le discours de la mère, une Marseillaise a clôturé la cérémonie, une Marseillaise chaleureuse et émouvante, reprise en cœur par les centaines de personnes présentes et unie, selon Pascal, un habitant. C'est cette image qu'il veut retenir.
On ne peut pas laisser ça comme ça, une fonctionnaire de la police est morte, point barre. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Faut marquer le coup. Qu'ils voient qu'on est tous là, les Français, on est là. C'est tout, c'est pas eux qui auront le dernier mot, c'est nous. Nous et nous, voilà, point barre.
Un discours combatif partagé par de nombreuses personnes venues rendre hommage à cette policière de Rambouillet assassinée vendredi dernier.
Justin Morin est noté qu'au même moment, cet après-midi, des policiers se sont rassemblés en silence devant leur commissariat partout en France. Du côté de l'enquête, trois proches de l'assassin sont toujours en garde à vue ce soir, son père ainsi que deux de ses cousins. À Lille, une très forte explosion a été entendue ce soir dans le quartier d'affaires Euralille. Explosion entendue à plusieurs kilomètres à la ronde d'une camionnette en feu sur le boulevard périphérique lillois. Le véhicule contenait des bouteilles de gaz. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre les flammes et il n'y a heureusement pas de blessés, comme nous le signale notre correspondant à Lille, Lionel Gougelot. Les fouilles ont repris aujourd'hui dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, tuée par Michel Fourniret en 2003. La zone désignée par Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série, a été déboisée pour permettre aux équipes spécialisées de reprendre les recherches. Plus de 25 000 personnes ont manifesté hier en France pour réclamer justice pour Sarah Halimi, cette sexagénaire juive tuée en 2007. Affaire qui ne fera pas l'objet, vous le savez, d'un procès car le meurtrier a été jugé irresponsable pénalement. Une décision qui suscite beaucoup d'interrogations jusqu'au sommet de l'État. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a en effet été chargé de présenter fin mai un projet de loi modifiant l'article sur les responsabilités pénales. Or, on découvre aujourd'hui qu'un rapport parlementaire commandé l'an dernier par sa prédécesseur, Nicole Belloubet, préconise au contraire un statu quo, Marion Dubreuil.
Oui, c'était pourtant le même climat d'émotion qu'aujourd'hui. La chambre d'instruction avait conclu à l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, en proie à une bouffée délirante à cause d'une consommation de cannabis. Même incompréhension, même révolte aussi. La seule chose qui a changé depuis, c'est que la décision est aujourd'hui définitive. Mais pour les auteurs de ce rapport, il ne faut pas toucher au principe de l'irresponsabilité pénale. Si le discernement est aboli au moment du crime, on ne peut pas retenir l'intention, sous peine, je cite, de menacer notre édifice pénal. En clair, même dans l'hypothèse où le mis en cause a consommé volontairement des substances toxiques, c'est le cas du meurtrier de Sarah Halimi, et qu'il a ensuite commis un crime sans en avoir conscience, on ne peut pas retenir ce rôle actif au départ, avant la commission de l'infraction. Les parlementaires estiment que la justice a déjà la possibilité de retenir l'altération du discernement pour engager la culpabilité de l'auteur quand il commet des infractions sous les effets de stupéfiants ou de médicaments avec des peines de prison réduites.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1, et je précise que Sarah Halimi a été tuée en 2017 et non en 2007, comme je l'ai dit il y a une minute. Total confirme la suspension de son gigantesque projet gazier dans le nord-est du Mozambique, interrompu après une attaque djihadiste au début du mois. Une situation de force majeure, indique le groupe français qui a ordonné le retrait de l'ensemble de ses personnels sur place pour des raisons de sécurité. Le gaz dont les cours mondiaux sont en hausse, notamment à la suite du blocage du canal de Suez. Conséquence, les tarifs réglementés vont augmenter de 1,1% en moyenne au 1er mai. C'est aussi en mai, le 3 précisément, maintenant que les restrictions de déplacement vont être levées, s'en sera fini de la limitation à 10 km autour de son domicile. On va pouvoir à nouveau voyager, ce qui n'a pas échappé à la SNCF. La compagnie ferroviaire va renforcer son offre de train début mai, comme l'a révélé à la mi-journée sur notre antenne Christophe Fanichet. C'est le responsable de la branche voyage de la SNCF, invité à 13h de la Franche Bouge sur Europe 1.
On voit les premiers frémissements de demandes de voyage. Hier, on a vendu par exemple 150 000 billets de train. Donc ça recommence. Et puis surtout, on va accompagner cette envie de train. Aujourd'hui, vous avez à peu près 4 TGV sur 10 qui circulent, 1 intercité sur 2 et puis 8 TER sur 10. Eh bien, dès le 3 mai, nous remontons cette offre de transport pour que les Français puissent voyager. Et nous avons décidé d'ouvrir le plan de transport pour les grands week-ends qui arrivent. L'Ascension et la Pentecôte. Et pour le 7 mai, nous aurons à peu près 8 TGV sur 10 qui circulent et nous aurons pratiquement tous nos trains sur les grands week-ends de mai. On est prêts.
Alors, vous êtes prêts, mais vous n'allez pas nous faire payer trop cher puisque réservé à la dernière minute, d'habitude à la SNCF, ça veut dire coup de massue.
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur notre site oui.sncf. Vous verrez, toutes les destinations sont aujourd'hui à très très petit prix.
Christophe Fanichet, le responsable de la branche voyage de la SNCF, invité de la France Bouge à la mi-journée sur Europe 1 avec Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Un mot de football pour terminer, cette bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Keylor Navas a prolongé aujourd'hui son contrat d'un an. Le gardien, qui est l'un des tout meilleurs parisiens cette saison, est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024. Le PSG qui se prépare au choc attendu mercredi soir au Parc des Princes, demi-finale à aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Match qui sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. La météo, Laurent Cabrol, la pluie est enfin arrivée dans le sud, mais les agriculteurs espéraient mieux.
Effectivement, la pluie n'a pas donné grand-chose aujourd'hui sur les régions de la moitié sud. En tout cas, pas suffisamment pour enrayer le phénomène de sécheresse qui se manifeste. Et demain, elle sera encore plus espacée, de faible intensité. Mais quand même, on peut espérer, vous direz c'est pas logique, mais enfin on peut espérer quelques orages sur la Côte d'Azur et la Corse qui pourront renforcer le niveau de l'eau. Alors donc sur la moitié sud demain, ce sera de la pluie, ou en tout cas des nuages. Et puis sur la moitié nord, au nord de la Loire, ce sera un temps franchement ensoleillé, avec beaucoup moins de vent, donc très agréable. Et des températures qui vont s'échelonner, disons entre 14 et 23 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. La France a dévoilé aujourd'hui son pavillon pour l'exposition universelle de Dubaï qui débutera en octobre. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Éric Lin, qui est le commissaire de la France pour cette exposition. Il sera beaucoup question de développement durable. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street commence la semaine prudemment en attendant de nombreux résultats d'entreprises à partir de demain.
Oui, un marché encore coupé en deux. Le Dow Jones recule, moins 0,18%, une petite baisse, 33 982 points. Mais l'indice Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, monte, il est même au plus haut. 14 139 points, plus 0,87%. C'est vrai que le calendrier est très chargé cette semaine. Entre la réunion de la réserve fédérale, ce sera mercredi, les résultats trimestriels de Microsoft et Google demain, suivi de ceux de Facebook et Apple mercredi. On a les résultats de Tesla déjà ce soir, de très bons chiffres, avec des revenus de plus de 9 milliards de dollars, des revenus trimestriels, c'est le premier trimestre, avec un résultat meilleur que prévu aussi, 438 millions de dollars, et ça donne Tesla en hausse d'1,2%, 738 dollars ce soir. Les valeurs de technologie sont en progression globalement. Donc Microsoft plus 0,1%, Apple plus 0,2% à $134,60, Facebook plus 0,6%, Google plus 0,4%, Amazon gagne 2%, $3,409. Le pétrole est plus calme, il revient un cran en arrière, moins 0,2%, $62 le baril WTI. Exxon est quasiment stable, $55,60. L'euro campe au-dessus des 1,20 face au dollar, 1,2080.
Le retour en France où la Bourse de Paris a débuté la semaine en légère hausse dans un marché toutefois très calme.
Oui, alors, il ne s'est pas passé grand-chose, c'était quand même ferme sur le CAC 40, plus 0,28%, 6275 points. Ce sont de nouveau les valeurs industrielles qui pointent en hausse, en particulier Eramet, plus 5%. Le groupe minier est à plus de 60 euros, 60,35 €. Le chiffre d'affaires d'Eramet au premier trimestre est ressorti en hausse de 8%, des chiffres bien accueillis. On a aussi Airbus qui grimpe encore de 2,8%, qui repasse la barre des 100 euros, 101 1,24€. Et puis Vinci gagne 2%. Vallourec aussi plus 2% avec Colas et Safran. Donc toutes les valeurs industrielles qui se distinguent.
Exception du jour, le titre Boiron qui a de nouveau perdu du terrain.
-3,7%, 37,50€. Le laboratoire spécialiste de l'homéopathie reste sous pression après un premier trimestre difficile avec un chiffre d'affaires en baisse, très forte baisse de 41,8% à 91 millions d'euros. En raison du déremboursement des médicaments homéopathiques en France, en raison aussi de la forte baisse des pathologies hivernales, grâce au respect des fameux gestes barrières, il n'y a pas eu beaucoup de grippe, pas beaucoup de rhume, et ça donne Boiron en forte baisse, encore donc ce soir de 3,7%, 37,50€. Les autres places financières en Europe sont en hausse, globalement Milan plus 0,5%, Madrid plus 0,9%, le DAX à Francfort plus 0,1% et le CAC 40 en hausse de 0,28%, 6275 points.
Merci beaucoup Didier Hamoud de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Éric Linquier.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le commissaire de la France à l'exposition universelle de Dubaï. Et justement, si nous avons voulu être avec vous ce soir, c'est que vous avez dévoilé ce matin notre pavillon français pour cette exposition qui se tiendra du 1er octobre au 31 mars. Alors c'est un pavillon, il faut bien le reconnaître, très joli, très épuré. Le thème, c'est celui de la lumière. C'est vraiment un trait entre le passé, celui des lumières, et le présent, avec ce que l'on arrive à faire de mieux pour capter la lumière, pour la garder, pour en faire de l'énergie, etc. etc. C'est ça l'idée, Éric Linquier ?
Absolument. C'est le pavillon de la lumière et des lumières. Et on va jouer sur les deux termes. Les lumières, comme vous le dites, c'est l'histoire, c'est le siècle des lumières, c'est l'encyclopédie. C'est le fait que la France a toujours été une terre d'innovation et de progrès. Et c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, la lumière incarne de manière très symbolique le progrès qui est devant nous, qu'il s'agisse de mobilité, puisque la lumière est mobile, qu'il s'agisse d'énergie, et de travailler sur tous les enjeux d'une énergie propre et durable, et finalement de s'assurer que on met en valeur toutes les entreprises françaises qui contribuent au niveau mondial à ces innovations.
Alors justement, si on doit faire un pas entre l'histoire et le présent, on va commencer par le passé. On va y trouver, c'est je crois quand même assez exceptionnel, 35 tomes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ces 35 tomes vont être présentés dans le pavillon français de cette exposition universelle de Dubaï.
Oui, 35 tomes de l'édition originale qui nous est prêtée par les Archives nationales, qui vont donc être installés, visibles par le public, avec notamment des volumes de planches qui sont très très beaux sur le plan esthétique. Et l'enjeu, ça va être de faire le pont entre ce passé, cette histoire de l'innovation au XVIIIe siècle et l'histoire de l'innovation aujourd'hui sur un certain nombre de thèmes, dont la mobilité, entre autres, et finalement de se dire, on vous présente un document historique, mais on va aussi vous parler de ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde sur les mêmes sujets qu'il y a deux siècles et demi.
Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que la France est en pleine transition écologique, puisque par exemple, ce pavillon va être, on va dire, quasi autonome en énergie pendant toute la durée de cette exposition universelle.
Oui, l'ambition du pavillon, c'est vraiment d'en faire un bâtiment durable. Et ça se traduit par le fait qu'on produit notre énergie à travers des panneaux photovoltaïques, des cellules photovoltaïques qu'a conçu le groupe AQO, par du recyclage de l'eau sur le pavillon, là aussi, pour éviter du gaspillage d'eau, et surtout par le fait qu'au-delà des 6 mois de l'exposition, notre ambition est de lui donner une deuxième vie, un projet en cours de réutilisation du pavillon post-expo après mars 2022.
Oui, parce qu'il est démontable et réutilisable. Alors, vous avez déjà une idée de ce à quoi il va servir dans cette deuxième vie ?
Il y a quelques pistes, malheureusement je ne peux pas vous les confirmer parce qu'on attend une décision formelle d'acquisition de ce pavillon, mais en tout cas ça pourrait être dans un lieu très très symbolique en France et qui du coup lui donnerait une forte visibilité pour plusieurs décennies, on l'espère.
Je rappelle que vous êtes le commissaire de la France à l'exposition universelle de Dubaï qui va avoir lieu à partir du 1er octobre. Ça sert à quoi encore aujourd'hui une exposition universelle ?
L'ambition, pour moi, demeure la même depuis le milieu du XIXe siècle. Les premières expos universelles ont lieu en France, en Grande-Bretagne, dans ce qui était le monde émergent de l'époque, l'Europe, les États-Unis. Et ça demeure, à mon sens, un événement toujours pertinent parce que la notion de progrès, la notion d'innovation, le fait de mettre tout le monde ensemble pour justement échanger des idées, des expertises et faire progresser l'humanité, ça demeure d'actualité. Alors, le centre de gravité n'est peut-être plus le même parce que, et on peut le déplorer, le centre de gravité de l'économie mondiale, il est plutôt en Asie, ce qui fait que, par exemple, les grandes expositions universelles récentes, je pense à celle de Shanghai en 2010, celle de Dubaï évidemment, puis il y en aura d'autres dans le futur, vont plutôt avoir lieu dans le monde émergent, en Asie, peut-être un jour en Amérique latine ou en Afrique.
Mais on sait qu'elles attirent moins de monde, qu'il y a plus cet attrait quand même qui était à l'époque historique pour une exposition universelle.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'expo de Shanghai, par exemple, en 2010, a attiré 64 millions de visiteurs. C'était quand même le plus gros succès historique des expos universelles. L'expo de Dubaï va accueillir 192 pays participants, et c'est le plus grand nombre de pays qui a jamais participé à une expo universelle. Donc, l'attractivité, alors c'est peut-être moins vrai vu d'Europe, mais vu du monde émergent, c'est plus que jamais un événement d'actualité et attractif pour parler d'innovation.
Mais ça reste du coup un élément important de visibilité de la France, puisque notamment on avait ce matin Franck Riester, hein, qui est notre ministre délégué en charge de l'attractivité. Donc ça reste un élément d'attractivité de la France, une exposition universelle ?
Absolument. Et pour reprendre les propos de Jean-Yves Le Drian lors de la présentation ce matin, le plan de relance, il est nécessaire, il a un volet international et l'Expo Universelle, finalement, c'est une plateforme pour aider l'internationalisation de nos entreprises, donc au final, contribuer à cette fameuse relance dont on a besoin.
Et ça se prépare un petit peu dans le grand secret, ce pavillon. Vous avez tout caché à vos grands concurrents internationaux. Il y a une sorte de cohésion quand même.
C'est un industriel.
Ouais.
Absolument. Bah, c'est vrai pendant un certain temps, chaque pays, d'abord garde le secret sur l'architecture de son pavillon, parce que c'est le premier élément que voit le visiteur, c'est le bâtiment en tant que tel. Et donc, il y a une certaine volonté de garder l'originalité. Après, sur les contenus, sur les parcours de visite, sur l'organisation des événements, il y a aussi une petite forme de concurrence. Après, on est aussi beaucoup dans des logiques de coopération, parce qu'il y a beaucoup d'événements qu'on va monter, dans lesquels on va associer d'autres pays, parce qu'il y a des sujets d'intérêt commun qui dépassent les purs intérêts français. Et donc, c'est vraiment, au final, dans une vraie logique coopérative qu'on se trouve, même si, évidemment, au début, chacun cache un peu la copie, mais c'est bien naturel.
Et ça coûte cher de participer comme ça à une exposition universelle, parce que c'est vrai que notre pavillon est magnifique. Hein, je le disais, il est très épuré, avec un toit terrasse assez impressionnant qui, je crois, permettra d'avoir une vue, par ailleurs, extrêmement intéressante sur toute l'exposition universelle. Ça coûte cher ?
Alors, deux éléments de réponse. D'abord, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est extrêmement important. On en a fait un projet à financement conjoint public et privé. Donc en pratique, hein, l'État apporte à peu près 2/3 du coût total et le secteur privé le dernier tiers. C'est le montant le plus élevé qu'on a connu historiquement. Par ailleurs, ça peut paraître beaucoup, hein, c'est de l'ordre d'une trentaine de millions d'euros. Simplement vous dire que, sans même parler du pavillon chinois à 120 millions de dollars ou le pavillon des États-Unis qui a dû coûter à peu près 70 ou 80, on est dans des échelles moindres, mais j'allais dire on va le faire à la française, c'est-à-dire avec, on l'espère, beaucoup de débrouillardise et d'imagination en fonction des moyens dont on dispose.
Bon, eh bien on surveillera tout ça. Un grand merci en tout cas, Éric Linquier. Je rappelle que vous êtes le commissaire de la France à l'exposition universelle de Dubaï. On a donc dévoilé notre pavillon aujourd'hui et cette exposition se tiendra du 1er octobre au 31 mars. Un grand merci à vous d'avoir été ce soir sur Europe 1. Nous, on se dit demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez d'hygiène avec votre invitée Céline Brucker, directrice générale de L'Oréal Grand Public France. 22h28 sur Europe 1, voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec l'opinion régionale, le jour du second tour, il va y avoir du sport, titre le quotidien libéral. Et oui, effectivement, le 27 juin, il va y avoir du sport, puisque sont prévus non pas un, mais deux grands événements sportifs, l'Euro de foot et le Tour de France qui aura débuté la veille. De quoi peut-être nuire à la participation à cette élection, écrit l'opinion. D'autant que le 27, deux huitièmes de finale sont prévus et il n'est pas impossible que les Bleus jouent l'un de ces deux matchs. L'un est programmé à 18h, l'autre à 21h. Dans le premier cas, la présence dans les bureaux de vote encore ouverts pourrait s'en ressentir. Dans l'autre, ce sera l'audience des soirées électorales qui en pâtira, car très vite, les Français se passionneront pour d'autres résultats que ceux des urnes. Et c'est bien dommage, parce que ces régionales ne manquent pas d'intérêt. C'est en tout cas l'avis de Laurent Baudin dans l'Alsace qui résume les enjeux ainsi. Entre un Rassemblement national qui voudra démontrer qu'il reste le premier parti politique du pays, des écologistes et socialistes qui devront démontrer que la nouvelle union de la gauche n'est pas utopique, les Républicains en capacité de faire oublier qu'il manque d'un leader pour 2022 et la République en marche qui ne pourra que créer la surprise. Ces élections régionales s'annoncent réellement passionnantes, écrit l'éditorialiste de l'Alsace. Un tout autre sujet à la une des Échos, éolien, le nouveau défi français, titre le quotidien économique. Un parc géant de 1000 mégawatts au large des côtes normandes et mis sur le marché. Le gouvernement a d'ailleurs dévoilé aujourd'hui la liste des 6 candidats présélectionnés pour la construction de ce qui deviendra le 8e projet français en la matière. Mais aucun champ éolien en mer ne tourne encore, notent les échos. La France est en retard, voilà pourquoi malgré les oppositions des pêcheurs, l'exécutif veut accélérer. Au Royaume-Uni par exemple, l'éolien offshore fournit déjà plus de 10% de l'électricité, à lire donc demain dans les échos. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant.
Exactement, et nous on vous retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash.
À tout de suite.
À tout de suite.